Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Le jour de la drache nationale, ça se bouscule place du jeu de paille. Ça roule des airs chez les antiquaires, ça batifole dans les marolles.
La place royale n'a pas le moral.
Bonjour à tous. Les transports, premiers émetteurs de gaz à effet de serre, et dans ce peloton, les voitures des particuliers arrivent en tête, loin devant les poids lourds ou les véhicules utilitaires, avec un impact sur le climat qui est, par exemple, en France, de 2 à 3 fois supérieur. Pas étonnant dans ces conditions que toutes les capitales européennes réfléchissent aux moyens de limiter l'impact de la voiture. On commence avec Bruxelles, qui a lancé il y a 4 ans un immense chantier, on l'appelle le piétonnier, 50 hectares réservés aux seuls piétons dans la capitale belge. Reportage dans les rues de Bruxelles, signé Lax Milota.
Nous sommes sur le boulevard Anspach, une artère de l'hypercentre de Bruxelles. Cinéma, restaurants, commerces et boutiques foisonnent. Depuis 6 mois, une nouvelle partie du fameux piétonnier a été inaugurée. Le piétonnier, un projet de 50 hectares de zone dédiée aux piétons. Un chantier qui a démarré il y a 4 ans et qui ne fait pas l'unanimité chez les usagers.
Tu penses quoi du piétonnier ?
Ben, ça dépend. Quand on n'est pas en voiture, c'est pas chiant, mais quand on est en voiture, c'est chiant.
C'est bien, c'est plus écologique, donc forcément, ça a un bon impact.
Ouais, mais après, ça fait plus d'embouteillage pour les voitures.
Ouais, mais bon, finalement, c'est pour le petit confort qu'on va en voiture et qu'on pourrait penser à faire les choses un petit peu mieux et à juste marcher.
Écolo, moi. C'est plus beau, mais c'est un espace trop grand, il sert à rien, tu vois. T'as juste le trottoir là, c'était bon. Hein.
Au milieu des quelques petits arbres plantés, assis sur les nouveaux bancs, on entend encore le bruit des pelleteuses et autres marteaux-piqueurs. Les travaux ne sont pas encore terminés. Pour certains, cependant, c'est une vraie bulle d'oxygène.
C'est vraiment un bon projet et agréable, positif. Peut-être après les travaux, ce sera encore un peu mieux. Maintenant, il faut supporter les travaux, mais sinon, c'est un super projet. C'est top. Vive les piétons et à bas les voitures.
Il n'y a pas si longtemps ici, il y avait une route à double sens de circulation. Joseph, qui peut à présent promener son chien au beau milieu du boulevard, se souvient. Pour lui, c'était mieux avant.
Je suis un vieux Bruxellois, ça ressemble juste à rien. Et ça dure des éternités, c'est exagéré. Et ça coûte une fortune.
Et vous avez connu quand il y avait des voitures ici, c'est
ça ? Oui, moi j'ai tout connu, j'ai roulé ici en voiture et tout, en voiture, à vélo, à trottinette. Les anciennes trottinettes, hein, pas moteur. Hein.
Un sentiment partagé par Pierre, 85 ans.
J'habite dans le quartier ici et ça ne se termine pas. Hein. C'était plus agréable.
Avec les voitures ?
Avec les voitures, bien sûr.
Pourquoi ?
Il y avait moins de circulation que maintenant.
Franchissant plusieurs dizaines de mètres de boulevard encore en travaux, nous rejoignons Bart Dont, adjoint au bourgmestre chargé de la mobilité, membre du parti écolo. Bruxelles sans voiture, est-ce un rêve ?
C'est vraiment un choix politique, et un choix politique qu'il faut maintenir. Il y a toute une dynamique à Bruxelles, des riverains qui disent, et c'est assez, il faut vraiment changer de cap et créer des quartiers où la voiture est encore le bienvenu, mais où la priorité, c'est aux piétons, c'est aux cyclistes, c'est aux transports en commun. Notre politique, c'est pas pour interdire la voiture. Il faut juste faire en sorte que les gens qui ont vraiment besoin de la voiture l'utilisent.
Mais pour faire baisser le nombre de voitures à Bruxelles, il faut mettre en place des infrastructures, rappelle Touring, un organisme qui représente les automobilistes. Des parkings de délestage à l'entrée de la ville, des pistes cyclables, augmenter le nombre de trains, décrit Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring.
Ce que Touring déplore, c'est d'avoir une politique anti-voiture. Il faudrait plutôt avoir une politique mobilité verte. Et pour cela, il faut commencer par des infrastructures d'alternatives. Et quand tout est mis en place, alors vous pouvez commencer à réduire les voitures dans les villes.
Ces 5 dernières années, le nombre de cyclistes à Bruxelles a doublé. Les autorités ont mis en place une zone de basse émission en région bruxelloise. Depuis le 1er janvier, les véhicules les plus polluants ne peuvent plus circuler. Le piétonnier, lui, devrait normalement être inauguré à la fin de l'année.
Et à Londres, une des villes pilotes en la matière, la mairie n'a pas interdit l'accès du centre aux voitures. Elles sont en revanche très fortement taxées. Les péages peuvent atteindre 30 euros par jour et la multiplication des différentes zones constitue un véritable casse-tête pour l'automobiliste. Les explications de Marie Billon.
Si on n'y fait pas attention, on peut entrer dans la zone de péage urbain sans s'en rendre compte. Il faut ouvrir l'œil, par exemple, près du rond-point très fréquenté d'Elephant and Castle, dans le sud de Londres. Sans y prendre garde, on entre dans une zone à péage, la zone 1 la plus centrale, et une zone à basse émission. Seul un C rouge peint sur la route nous avertit, ainsi qu'un panneau planté sur le trottoir. Il faut aussi vérifier les conditions et les tarifs. Le péage urbain se termine à 18h. Pour la zone de basse émission, c'est 24h sur 24. Mais toutes les voitures ne sont pas concernées. Cela dépend notamment de son année de construction. Enfin, pour compliquer les choses un peu plus, l'immense artère commerçante d'Oxford Street est considérée comme une voie de bus, interdite aux voitures individuelles et VTC de 7h du matin à 7h du soir, sauf le dimanche. Bref, l'automobiliste londonien vit dangereusement. Mais la mairie de Londres ne croit pas en la coercition. Elle a un objectif: 80% des trajets doivent se faire en transport respectueux de l'environnement d'ici 2041 contre 63% aujourd'hui. Et pour ça, elle en appelle à la bonne volonté et au porte-monnaie, puisque rouler dans la capitale peut coûter plus de 30 euros par jour. Pour certains, c'est un manque d'ambition. Le groupe des Verts à l'Assemblée de Londres, qui est l'équivalent du Parlement de la capitale, se bat pour des actions plus concrètes. Une zone de péage plus large, des horaires étendus, des interdictions de circuler dans certains quartiers résidentiels, des contraventions si on n'éteint pas le moteur lors d'un arrêt prolongé. En attendant, la mairie a aussi décidé de tenter le premier jour sans voiture. Ce sera le 22 septembre prochain. Le centre de Londres est concerné et les autres arrondissements pourront décider d'y participer ou non. Pour l'instant, 16 l'ont promis, 17 n'ont pas encore répondu à l'appel. Le but est d'inviter chacun à découvrir la ville, à pied ou à vélo. Il y aura aussi un festival de rue baptisé Reimagine. Ce Car Free Day tombe un dimanche. La mairie veut éviter de se mettre à dos les Londoniens allant au travail.
Barcelona ciudad, buscas tu oportunidad de poder escapar en Barcelona ciudad. Barcelona ciudad, tu infancia está muy atrás, tu juventud se perdió entre canción y canción.
Voilà 4 ans que la mairie de Barcelone a créé des quartiers sans voiture ou à circulation réduite. On les appelle les super îlots ou superilla en catalan. L'objectif ambitieux est ensuite de relier tous ces quartiers pour désengorger massivement le centre-ville. Une politique qui est pour l'instant plébiscitée par les habitants. Reportage sur place d'Élise Gazangel.
Au cœur de Saint-Antoine, autour de l'immense marché moderniste du même nom, les voitures ont laissé place aux vélos et aux jeux d'enfants. Depuis quelques jours, les rues adjacentes ont été piétonnisées, le mobilier urbain empiète sur la rue et les rares voitures autorisées ne peuvent circuler au-delà de 10 km/h. Ces rues forment un super îlot, super illa en catalan, nom donné au typique pâté de maison barcelonais quadrangulaire. Sur le sol, des pistes d'athlétisme ou des marelles sont tracées face à de nombreux bancs et bacs à fleurs, tandis que les angles de rue sont occupés par des tables de pique-nique ou d'échecs. Montserrat Pérez gère le petit primeur à la jonction des rues Parlament et Comptaborey.
C'est agréable pour les piétons. Et pour moi, par exemple, c'est plus divertissant. Maintenant, je vois des gens. Avant, j'avais vu sur les voitures. Les gens, les enfants, ça me distrait. C'est plus joli.
Certains habitants se plaignent, mais pour Montserrat, ce sera bientôt terminé.
Il faut que les gens s'habituent. Partout, c'est comme ça. Si tu veux un endroit plus tranquille, il faut enlever les voitures. Et si tu veux un monde meilleur, il faut enlever le plastique. Mais certains ont du mal à s'habituer. Au début, ils se plaignent. Ah, c'est nul, c'est mal fait. Et puis, ils finissent par aimer, même si aujourd'hui, ça gêne les automobilistes ou les livreurs. D'ici un mois, ils cesseront de se plaindre.
À Barcelone, depuis 2016, la mairie a mis en place 4 super-illes. Dans l'ancienne zone industrielle du nord de la ville, à Poblenou, l'implantation avait d'abord provoqué un fort mouvement d'opposition. 2 ans et demi plus tard, les places de parking ont été réduites de moitié et les activités commerciales ont augmenté de plus de 20%. Mais pour quelques voisins comme Josep Montt, architecte, ce projet est un échec.
L'objectif, c'était de remplir ces rues de vie. Tout le monde allait sortir dans la rue, dans la joie. J'aurais adoré parce que je vis à côté et on aimerait tous que ce soit un vrai succès. Mais comme tu vois, ce n'est pas le cas. Et comme ici, les 3/4 des rues de cette superilla pilote sont vides.
Pour lui, le quartier manque surtout d'investissements pour refaire certains trottoirs abîmés ou implanter des équipements municipaux manquants. Tout comme Jordi Campins, porte-parole de la plateforme anti-Superilla de Poblenou, ils estiment que cette Superilla n'était pas justifiée dans un quartier moins peuplé et sans problème de circulation. Pour l'activiste, on a surtout déplacé les problèmes.
Si on parle de pollution liée à la circulation, ce qu'ils ont fait, c'est juste la déplacer hors du centre-ville. Ils ont baissé la pollution dans deux ou trois rues ici et ils l'ont aggravée en périphérie.
Un argument que nuance Ton Salvador, en charge de l'urbanisme à la mairie de Barcelone. Pour lui, ces premières superillas sont juste un élément d'une stratégie plus globale que la mairie adopte dans le but de réduire 20% de la circulation des voitures particulières d'ici à 2030. À terme, si la circulation est réduite drastiquement, ces superillas devraient se rejoindre pour former un réseau homogène.
La superilla est un concept qui tente de se répandre dans toute la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas un concept qui s'applique ici ou là, mais notre intention, c'est qu'elle s'étende partout dans la ville. Et pour toucher toute la ville, la meilleure manière, c'est de partir de différents points pour qu'ils se rejoignent peu à peu, comme des racines.
En 3 ans, ces superillos ont permis de récupérer plus de 10 hectares d'espace public. Mais Barcelone ne compte pas en rester là. La municipalité, fraîchement réélue, a lancé 3 nouveaux projets de superillas.
Est-ce parce qu'il s'agit d'une des plus petites capitales d'Europe, en tout cas avec à peine 300 000 habitants? Ljubljana, la capitale slovène, a conquis dès 2016 le titre de capitale verte d'Europe. Tout son centre-ville est interdit aux voitures particulières. Il a donc fallu développer des transports alternatifs. L'impact sur la pollution est sans appel. Les explications de Laurent Gélin.
70% de gaz à effet de serre en moins dans la rue Slovenska, la plus grande artère de la capitale slovène. Voici les résultats concrets obtenus par la mairie de Ljubljana depuis l'adoption en 2007 d'un vaste programme visant à mettre l'accent sur les mobilités douces. L'accès du centre-ville est désormais strictement réservé aux vélos, aux bus et aux taxis, et de petits véhicules électriques avec chauffeur permettent à ceux qui en ont besoin de se déplacer sans polluer l'atmosphère. Les parkings ont été transformés en parcs et les ponts, autrefois réservés aux voitures en promenade. Désignée capitale verte de l'Europe en 2016, Ljubljana mise aussi sur la multimodalité pour répondre aux besoins de la population. Le réseau de lignes de bus a été étendu vers la banlieue et un système permet de laisser son véhicule sur des aires spéciales en périphérie et de rejoindre le centre grâce au vélo et au transport en commun. Conséquence de ce succès, plus de 260 km de pistes cyclables sont désormais accessibles. Pour seulement 3 euros par an, il est possible de louer l'un des 590 vélos mis à disposition par la ville. Une transition écologique que les commerçants semblent aujourd'hui plébisciter, après avoir un temps craint une baisse de leur fréquentation, mais qui reste limitée à la capitale slovène. Dans le reste du pays, les infrastructures ferroviaires et le réseau de bus sont en effet encore largement sous-développés.
Alors qu'on attend toujours la nomination de la nouvelle présidente de la Commission européenne qui recueillera peut-être demain mardi la majorité de voix requises au Parlement européen, doit-on s'inquiéter du futur de l'Europe? L'actualité récente n'a pas ménagé l'UE, du Brexit à la montée du populisme en passant par les attaques de Donald Trump. Et pourtant, toutes ces attaques sont peut-être une chance, l'occasion de se réinventer. C'est en tout cas la thèse que développe Guillaume Duval, éditorialiste à Alternatives économiques, dans son livre « Trump, Poutine, Orban, Salvini et le Brexit, une chance pour l'Europe ». Il est interviewé par Juliette Garbrand.
D'abord, ce qui est important à comprendre pour ce qui se passe en Europe centrale et orientale, c'est que ce sont des États qui n'ont guère été indépendants qu'une vingtaine d'années en général entre les deux guerres mondiales, qui sont retombés tout de suite dans l'orbite soviétique. orbite, une orbite qui comprenait un marché commun. Hein, donc il n'est pas forcément surprenant qu'ils ne souhaitent pas être très intégrés, que Bruxelles prenne le relais aujourd'hui de Moscou. D'autant que après la chute du mur, ils avaient été sous la coupe en général de régimes très libéraux, qui avaient beaucoup défait tous les systèmes sociaux. Donc aujourd'hui, les eurosceptiques sont plutôt des gens qui font du social à l'Est. Les pro-européens sont restés très libéraux dans l'ensemble et c'est pas étonnant qu'ils s'en méfient. Pour autant, je ne pense pas qu'ils mettront la pagaille dans l'Union européenne parce que ils ont très peur, en particulier de Poutine qui est aux portes. C'est aussi une bonne chose parce que ça libère les Allemands. Pendant très longtemps, les Allemands ont refusé une intégration plus poussée de la zone euro, en particulier parce qu'ils avaient peur que ça marginalise les Polonais. Ils pensaient que les Polonais allaient rentrer dans la zone euro, allaient accepter cette intégration plus poussée. Ils voient aujourd'hui que ce n'est pas possible. Donc ça fait que les Allemands n'ont plus d'autre opportunité, s'ils veulent continuer l'intégration européenne, la pousser plus loin, que de se retourner vers nous, vers la France.
Est-ce que c'est aussi sur ce dossier économique que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis peut être une bonne nouvelle pour l'Europe, alors qu'il la traite en ennemi ?
Oh, c'est une bonne nouvelle à plein de titres pour l'Europe. Je pense que c'est le meilleur allié de la reprise du mouvement d'intégration européenne. D'abord, sur les questions de défense, il poursuit plutôt le désengagement des Américains en termes de sécurité par rapport à l'Europe. Donc il nous pousse sous cet angle-là à nous doter enfin d'une politique de défense extérieure commune. Hein, donc le cas iranien est particulièrement emblématique. Le deuxième dossier sur lequel il nous aide, c'est sur le numérique. Là aussi, les Européens ont découvert la gravité de la dépendance vis-à-vis des firmes américaines en matière de numérique. Ça nous pousse, là aussi. Les Allemands, en particulier, qui étaient très opposés à cette idée de politique industrielle européenne, ils sont aujourd'hui beaucoup plus favorables pour cette raison et aussi à cause de l'émergence de la Chine, du fait que les multinationales chinoises nous menacent, etc., etc.
Revenons sur le continent avec l'Italie. En Italie, on a l'extrême droite de Matteo Salvini au pouvoir avec les populistes du mouvement 5 étoiles. On pourrait penser que les politiques de l'Union européenne vont évoluer pour faire face à cette situation. Et pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de changements.
Salvini a quand même réussi à faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui une politique migratoire beaucoup plus intégrée en Europe. Alors c'est une politique de prohibition, d'interdiction, d'Europe forteresse, etc. Je pense que c'est une politique qui va échouer parce que comme toutes les politiques de prohibition, elle ne réussit pas à empêcher les gens de passer et ça ne fait qu'enrichir encore plus des mafias. Mais en tout cas, c'est une politique qui est plus intégrée, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire sauter en particulier l'hypocrisie française. On avait laissé les Grecs, les Italiens en gros se débrouiller avec les migrants. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les électeurs italiens se sont tournés vers Salvini. Donc là, c'est vraiment à nous de faire en sorte que la politique change.
Avec l'Italie, c'est également sur le plan économique que les choses pourraient changer.
L'Italie est l'homme malade de l'Europe depuis 25 ans déjà, notamment parce qu'ils ont été les bons élèves de l'austérité budgétaire. Je sais que les Français ne le croient pas d'habitude, mais c'est bien ça qui s'est passé. Simplement, ça a tellement freiné l'activité économique qu'ils n'ont pas réussi à se désendetter, ils n'ont pas réussi à réformer leur État. Donc ils sont dans la mouise et ils ont décidé de sortir du carcan de Maastricht, etc., etc. C'est très grave, ça peut relancer la crise de la zone euro. L'Italie, c'est un très gros morceau. La dette grecque, c'est 3,5% du PIB de la zone euro. La dette italienne, c'est 15% du PIB de la zone euro. Il faudra forcément remettre sur le tapis la question de l'annulation partielle des dettes, etc. Donc je pense que sous cet angle-là aussi, c'est plutôt une bonne chose que ce gouvernement soit au pouvoir et qu'il peut changer la donne en Europe.
Trump, Poutine, Orban, Salvini et le Brexit, une chance pour l'Europe de Guillaume Duval est paru aux éditions Les Petits Matins. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.